Eureka.
Eureka !
Un podcast présenté par Radio Phoenix en partenariat avec l'Université de Caen Normandie à l'occasion de la Fête de la Science qui célèbre cette année sa 30e édition autour du thème « L'émotion de la découverte ».
On recense 55 518 enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, dont 1066 se trouvent à l'Université de Caen. Toutes et tous ont le même objectif, faire avancer la science. Dans cette série de podcasts, nous allons vous présenter 5 d'entre eux basés en Normandie. Outre leurs travaux, ce sont avant tout des parcours singuliers et inspirants que nous allons découvrir. À travers leurs témoignages, nous allons essayer de mieux comprendre ce qui les a amenés vers la recherche. Dans ce 4e épisode, nous allons aborder la fouille de données dans le développement de médicaments. Pour en parler, j'accueille Albrecht Zimmermann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'Université de Caen et membre du CODAG, un groupe de recherche en informatique et traitement de données au sein du GREC, le laboratoire de recherche en sciences du numérique de Caen. Avant toute chose, j'aimerais que l'on parle de votre parcours. Puisque l'émotion de la découverte est au cœur de cette 30e édition, dites-nous quelle a été l'émotion qui vous a fait aller vers la science avec un grand S.
Commencer au début, si vous voulez, j'ai toujours voulu comprendre. En fait, même à l'école, j'ai voulu comprendre tout, si vous voulez. La biologie, comment ça marche, le corps, l'informatique, l'histoire. Pendant des années, je voulais devenir chercheur en histoire. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il n'était pas facile de gagner sa vie comme historien. Puis, pendant quelques années, j'ai étudié l'informatique en fait avec l'idée de trouver un travail, d'être développeur en informatique quelque part ou quelque chose comme ça. Jusqu'au moment où, pendant mes études, j'ai pris un module qui s'appelait apprentissage automatique et c'était exactement ça. Donc en fait, c'était le parcours de toutes les techniques en apprentissage automatique qui existent. Ils sont expliqués. Les différentes techniques, les différents domaines et tout ça. Et ça m'a fasciné. C'était le moment où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être capable de développer quelque chose qui est presque intelligent.
Et quel a été le moment où vous êtes passé de l'histoire à la science? Il y a eu une personne, un événement, une envie particulière?
Je suis né en Allemagne de l'Est, et en Allemagne de l'Est, il y avait une structuration de l'éducation, déjà au niveau lycée et tout ça, où on était trié dans certaines directions. Et moi, en fait, parce que j'étais plutôt fort, j'étais dans une école mathématique, sciences dures et tout ça. Mais encore avec cette passion pour l'histoire. Et là, on a discuté les travaux possibles et tout ça. Et c'est là où, en fait, j'ai peu à peu développé cette idée qu'il était impossible de travailler comme historien, mais que peut-être on pourrait trouver quelque chose dans l'informatique. Et c'était aussi fin des années 90, début des années 2000, où en fait... J'ai aucune idée comment on dit « dot-com boom » en français, mais c'était cette première période
Le boom de l'informatique, un petit peu,
oui.
Quand ça a commencé.
Et en fait, ça donnait l'impression qu'il y avait un vrai marché de travail pour l'informaticien.
Oui, pour la science de l'informatique,
oui.
Vers laquelle vous êtes tourné. Vous nous parliez de vos expériences, de votre parcours plutôt à l'étranger. Vous êtes allemand, vous avez fait vos études en Allemagne, en Belgique, et vous êtes venu en France. Est-ce que vous vous appuyez sur votre parcours international dans vos recherches?
Pas trop, en fait, parce que je pense particulièrement en informatique, on est tous comme ça, à peu près. Beaucoup de mes collègues que je connais, ils ont fait un parcours similaire. Ils sont... des collègues français, par exemple, qui ont fait leurs études ici. Après, ils sont passés en postdoc en Allemagne ou en Belgique, dans des groupes. En fait, d'une certaine manière, le groupe dans lequel je suis pour l'instant est le plus homogène. En Allemagne et en Belgique, on avait des Néerlandais, des Italiens, des Espagnols. Donc, en informatique, on change pays pendant les études et pendant le travail très sombre.
Et ça vous aide dans votre travail, dans le sens où vous avez des contacts, du coup, dans différents laboratoires, dans différents pays, et ça favorise la recherche, en fait.
Tout à fait. Évidemment, il y a toujours des groupes qui se spécialisent dans certains domaines. Et évidemment, si on change de labo à labo et de groupe à groupe, on rencontre plus des gens et il y a des expertises où je n'ai pas besoin de connaître tout qui se passe en apprentissage automatique parce que je connais des gens qui le connaissent.
Et on va s'attacher maintenant à vos travaux de recherche. Vous avez fait de nombreux travaux, notamment sur l'analyse des données sportives, la comparaison et l'évaluation critique des techniques de fouille. Mais on va se focaliser en fait sur le data mining et la fouille de données dans le développement de médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le data mining ou en français l'extraction d'informations, la fouille de données?
En fait, c'est simple, si vous voulez. L'idée est qu'on a une grande base de données et ces données, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des traces des utilisateurs dans le réseau ou, comme vous avez dit, les données sportives ou, par exemple, des molécules. On peut avoir une base de données avec des millions de molécules différentes. Maintenant, on veut trouver soit quelque chose de surprenant, soit des régularités qui sont difficiles à trouver pour un être humain. Parce qu'en fait, beaucoup de médicaments qu'on connaît déjà, c'était des êtres humains qui ont regardé des masses de données relativement petites et qui se sont dit à un moment, ah oui, là, il y a une régularité. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est arrêté il y a quelques décennies et maintenant, on a trop de données et il est plus possible pour un être humain de regarder simplement ces données et dire, ok, ça, c'est une régularité qu'on peut exploiter. Donc, au lieu d'utiliser un être humain, on utilise un algorithme. On a une méthode systématique qui parcourt toutes ces données et qui, à un moment, fait sortir quelque chose où on dit « Ouais, ça, c'est quelque chose surprenant ou ça, c'est quelque chose régulier qu'on connaît pas encore et qu'on peut exploiter, par exemple, pour développer un médicament pour une nouvelle maladie ou pour une maladie déjà connue, mais où, par exemple, les anciens médicaments perdent leur efficacité. »
Et toujours au sujet de l'émotion, quand vous découvrez cette fameuse chose, cette fameuse irrégularité, quelle est l'émotion qui vous traverse? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous énerve parce que c'est irrégulier?
Ah non, pas du tout. En fait, la première, c'est pas forcément la surprise. Parce que, particulièrement en informatique, on a déjà une idée. L'informatique, c'est pas la science pure, si vous voulez, mais c'est une science applicative. Donc, on sait déjà plus ou moins la direction dans laquelle on veut aller. Et donc, souvent, on développe quelque chose et on a l'intuition que ça va marcher. Mais évidemment, on n'a pas encore le preuve. Donc, particulièrement en recherche, ça veut dire on développe une technique, on sélectionne les données. Maintenant, on lance l'expérience. Et après, souvent, en fouille de données, en fait, on attend. On attend quelques heures, voire quelques jours. Et après, quand on voit les résultats et on voit qu'en fait, ça a marché, ça c'est super. Ça, c'est super. L'émotion qui est la récompense de tout ce travail, parce qu'on peut se dire, oui, j'avais une idée et cette idée, elle fonctionne.
Si on retourne sur votre travail de manière un peu plus générale, on va se focaliser sur votre publication « Un outil pour l'identification et la caractérisation des composés d'interférences de PanAssay ». Comment, en fait, la fouille de données, elle aide au développement de médicaments?
Encore une fois, d'une certaine manière, c'est très simple. On a des molécules et on a souvent un indicateur binaire. Donc, ça veut dire c'est vrai ou faux. Et, par exemple, si on veut développer un médicament vers une cible thérapeutique, donc pour une certaine maladie par exemple, on sait simplement pour chaque molécule, ça marche pour empêcher le développement de cette maladie ou pas. Et après, on essayait de trouver un fragment de molécule, d'un sous-molécule si vous voulez, qui caractérise cette activité. Donc soit l'activité, soit l'inactivité. Pour les PAINTs, pour les PAN-SA Interference Compounds, l'indicateur est on a des molécules qui donnent l'impression d'être actifs vers une cible thérapeutique, mais qui ne le sont pas. Et on a des molécules où c'est vraiment le cas. On a des molécules où, en fait, ils donnent, pendant la première expérience, l'impression d'être actifs et qui ont été développés comme vrais médicaments plus tard. Et maintenant, on veut simplement trouver quelle est la caractéristique de ces molécules qui nous permet de dire ça, c'est une molécule trompeuse qui va en fait donner la mauvaise impression. Et ça, c'est un vrai candidat pour être un médicament dans le futur. Parce que si on trouve une molécule trompeuse et on essaie de le développer en médicament, typiquement, on va perdre beaucoup de temps et d'argent. Et en même temps, on va laisser des candidats prometteurs à côté.
Est-ce que ces recherches ont une finalité purement scientifique ou à qui ça sert? Aux chercheurs, aux entreprises? Qui est-ce qui les utilise?
Donc c'est plutôt nous, on développe ces méthodes pour filtrer les molécules trompeuses. Puis il y a des chercheurs en développant des médicaments qui utilisent ces filtres dans leur outil, dans leur pipeline, pour en fait travailler sur le développement de médicaments. Quand il y a un centre de recherche en médicaments, le CERM, et on est en collaboration avec eux, donc on discute, on récupère des données de ses collègues, parce qu'évidemment, ils ont des compétences en développement de médicaments qu'on n'a pas. Et puis, ça passe typiquement dans l'industrie pharmaceutique.
Oui.
Où en fait ces premiers résultats académiques sont utilisés pour développer des nouveaux médicaments. Un des défis les plus intéressants aujourd'hui sur lesquels les gens de CERM travaillent, par exemple, ce sont des médicaments pour l'Alzheimer, parce qu'apparemment c'est une maladie très complexe où une seule cible thérapeutique n'est pas suffisante pour le traiter. Donc il faut développer des médicaments d'une toute nouvelle classe qui n'existe pas encore.
Vous travaillez avec d'autres chercheurs, mais vous êtes aussi inscrit dans une démarche de transmission auprès des élèves. Est-ce que votre statut d'enseignant pousse à la découverte? Est-ce que quand vous donnez vos cours, vous avez des retours sur les élèves qui sont intéressés par ce travail de recherche via le numérique?
Oui, par contre, pas forcément sur le développement des médicaments. C'est quelque chose... certains étudiants en master vont être passionnés par cette question, mais pour être honnête, le sujet avec lequel je peux motiver le plus d'étudiants, c'est quand j'ai fait mes études sur les données sportives, parce qu'à un moment, j'ai développé des modèles pour prédire qui gagne un match, et si je parle de cette technique, il y a toujours des étudiants qui me demandent s'il est possible d'utiliser ces modèles pour faire des paris sportifs. Et là, c'est quelque chose qui le passionne vraiment.
Est-ce que vous êtes aussi inscrit dans une démarche de transmission vers le grand public, notamment à l'occasion de la fête de la science? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez développer un peu plus?
Tout à fait. Parce que donc, je l'ai fait pour la première fois l'année dernière et je me suis rendu compte que... Clairement, c'est pas facile de le faire. En fait, communiquer mon travail aux collègues, c'est facile parce qu'ils en ont déjà des connaissances. Même communiquer mes travaux à des étudiants est relativement facile parce que ce sont des gens qui sont déjà dans une pensée informatique. Mais quand on passe à un grand public qui n'a pas la pensée académique et qui n'a pas la pensée informatique, ça m'exige de traduire le concept avec le travail, mes explications et tout ça, dans un langage que je ne maîtrise pas encore. Et en fait, oui, c'est un défi très intéressant et très formateur. Et je vais continuer de le faire dans les années à venir, je pense.
Eh bien, merci Albrecht Zimmermann de nous avoir partagé l'émotion de votre parcours de chercheur. Vos travaux de recherche et publications sont à retrouver sur votre site web zimmermana.users.grec.fr.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Eureka, un podcast réalisé en partenariat avec l'Université de Caen-Normandie à l'occasion de la Fête de la Science 2021.